Radio Rancière présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est dans le Timmeret que j'ai découvert la Halière. J'ai été séduite par cet ensemble harmonieux et chargé d'histoire. Les heureux propriétaires ont bien voulu évoquer la mémoire de ce lieu. C'est pourquoi je remercie Geneviève Dutillet d'avoir accepté mon invitation. Geneviève Dutillet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, vous habitez la Halière. D'abord, qu'est-ce que signifie ce mot, Halière ?
Alors, le nom de la Halière viendrait du français hallier, qui signifie une suite de grands buissons. La Halière est intimement liée à l'histoire du Ronfait, qui est très proche et qui est actuellement encore un manoir dans l'état où il était au XVe siècle.
Alors, j'ai dit que cette propriété se trouvait dans le Timmeret. Est-ce que vous pouvez localiser, parce que c'est entre la Beauce et, entre Beauce et Perche
C'est une région naturelle et boisée qui se trouve effectivement entre Beauce et Perche.
Oui.
La capitale est Châteauneuf-en-Timmeret. C'est donc une dizaine de kilomètres de la Halière et c'est pris entre la forêt de Senonches et la forêt de Châteauneuf.
Alors, une très belle allée. Vous l'avez plantée vous-même ? Comment ?
Alors, l'allée de peupliers a été replantée en 1980. Elle remplaçait une allée de peupliers qui avait été plantée en 1930 par le colonel Dutillet. Quand on a abattu les peupliers, on a retrouvé les dégâts qu'avait fait la libération, c'est-à-dire qu'il y avait des éclats d'obus dans les 10 peupliers.
Ah oui, vous avez retrouvé tout cela ?
On a retrouvé tout ça au moment où les peupliers ont été vendus. Par bonheur, ils avaient été vendus sur pied, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'incidence marchande des peupliers. Alors cette allée de peupliers, elle remplaçait en 1930 une allée de sapins. Il y a eu plusieurs années d'allée de sapins de suite. Alors qu'à l'origine, au XVIIIe siècle, au moment de la construction de la Halière, il y avait des peupliers déjà qui entouraient
tout. Vous êtes revenu à l'origine.
Et nous sommes revenus à l'origine.
Mais alors vous parlez du XVIIIe et j'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait déjà une construction au XVIe siècle.
Alors il y avait au XVIe siècle une construction qui, d'après les papiers que nous avons trouvés dans les archives, était comparable à l'actuel manoir du Ronfait, c'est-à-dire une construction type du XVe siècle. On trouve de la pierre de grison et un très joli décor de briques avec des dessins un peu comme on en trouve dans le Val-de-Loire.
Et ce manoir auquel vous faites allusion se trouve près du Vaud ?
Alors ce manoir se trouve à 1 kilomètre environ de la Halière et ce manoir au XVe siècle était habité par Guillaume de Taché qui avait épousé Mademoiselle de Chaumont qui avait en dot le manoir du Ronfait. Et ces tachés ont eu un certain nombre d'enfants. L'aîné a fait souche et il est devenu l'ancêtre des tachés de la Pagerie, dont descend évidemment l'impératrice Joséphine. Le second s'est installé après la mort de ses parents au Ronfait. Et le troisième s'est installé à la Halière, où à l'époque, le manoir était semblable à l'actuel Ronfait.
Ah oui, donc vous avez des photographies, des...
Malheureusement, il n'y a pas de photographies, il y a seulement des descriptions qui permettent de savoir que le manoir comportait 4 chambres à l'étage.
Ça, à la Halière.
À la Halière, oui. Et comportait deux pièces au rez-de-chaussée, des très grandes pièces, une cuisine et ce qu'ils appelaient une salle.
Et qu'est-ce qu'il est advenu de ce manoir ?
Alors, ce manoir, en 1774, Monsieur de Balincourt l'a acquis et l'a mis par terre pour le remplacer par l'actuel château. Il a fait appel à un architecte de Chartres qui s'appelle Moreau. Et l'architecte de Chartres était tout à fait dans le goût du jour, c'est-à-dire tout à fait la fin du XVIIIe. Et il avait inventé de flanquer les pavillons de chapeaux en forme de pagode.
Oui,
un peu.
Oui.
Alors, on a dit que c'était pour cacher les cheminées. Vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. Bon, Monsieur de Balincourt s'installe à la Halière.
Avec une nombreuse famille.
Alors, ça, on ne le sait pas. Il fait faire des meubles, très beau mobilier, mais d'une façon locale, de très belles boiseries pour le salon.
Oui.
Tout est superbe. Il dépense certainement beaucoup d'argent. Il va très fort. Il doit certainement recevoir aussi.
Et qu'est-ce qu'il faisait ?
20 ans après...
On ne sait pas.
20 ans après, il est complètement ruiné. Et en 1794... Il cède la halière avec tout le mobilier à M. Dutillet. On a raconté à une certaine époque que c'était des dettes de jeu. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a encore à la halière des papiers faisant état d'un procès qui a eu lieu entre M. Dutillet et M. de Balincourt.
Que dit ce procès ?
Peut-être qu'une autre fois, nous en saurons davantage.
Oui.
Nous penchons vraiment sur ces 10 procès, mais ça a duré un moment. Et M. Dutillet s'installe donc à la Halière en 1794.
Il a une nombreuse famille.
Il est marié, mais en instance de divorce, comme c'était souvent à l'époque. Il a une fille. Et il finit par divorcer et il se remarie en 1804 et il épouse Mélanie de Rotrou, qui descend de ces familles, de cette famille illustre de Nogent, apparentée au poète naturellement. Elle arrive à la Halière, qu'elle aime tout de suite énormément. Son portrait est encore à l'heure actuelle dans le salon, ainsi que celui du premier Dutillet que nous appellerons Gabriel Ier.
Oui, parce que, si j'ai bien compris, tous les Dutillet s'appellent Gabriel. Leur prénom, leur premier
Absolument.
Prénom.
Absolument. Une seule personne a dérogé à la règle, c'est ma belle-mère, en appelant mon mari Jean-Gabriel. Et on m'a raconté qu'elle avait été en froid avec son beau-père, qui lui en avait voulu. De ne pas avoir appelé son fils Gabriel. Mais le prénom Jean-Gabriel existait déjà dans la famille Dutillet. Il y avait un frère du premier Gabriel Dutillet qui a habité la Halière, qui s'appelait déjà Jean-Gabriel. Alors ces Dutillet, ils étaient de Chartres. Et le père de Gabriel Dutillet, qui s'est installé à la Halière, était déjà né à Chartres. Et son père était né aussi à Chartres et était greffier à Chartres.
Ah oui. Alors, le premier Dutillet, que faisait-il ?
Alors, le premier Dutillet, il était avocat à la cour du roi.
Ah oui.
Et puis, par la suite, il a créé une, on appelait ça des entreprises de messagerie.
Ah
il
oui.
a créé donc une messagerie. Et il avait mis à Houdan un relais. Il avait mis là quelqu'un qu'il connaissait. Et par la suite... Il avait coutume, quand il venait à la Halière depuis son hôtel de la rue de l'Université, il s'arrêtait à Houdan, puisqu'il connaissait l'homme qui tenait ce relais. Ensuite, il arrivait à Dreux et il passait la nuit chez une tante de son épouse. Et le troisième jour, il arrivait à la Halière. Et
ça, cette époque, il fallait donc 3 jours.
À cette époque, il fallait 3 jours. Peut-être qu'on aurait pu n'en mettre que 2 et que peut-être on ne se serait pas arrêté à Dreux, par exemple, s'il n'y avait pas eu la famille.
Ça il en profitait pour prétexte. Visiter sa famille.
Mais c'était l'époque des chevaux, bien entendu, et c'était quand même assez long, un assez long voyage. Et son fils se rappelait très très bien cette époque. Il est né en 1805, il est mort en 1902. Et moi-même, j'ai encore connu une vieille tante de mon mari qui s'appelait Mademoiselle Denoux et qui me racontait ces histoires qu'elle avait entendues raconter de ce monsieur Dutillet.
Alors, à savoir, quelques histoires.
Alors, cette histoire-là, donc, de mettre 3 jours pour venir de Paris à la Halière, ou encore d'avoir entendu, ou vu plus exactement, de ses yeux vus, l'arrivée du télégramme chez Chapp, qui habitait tout près de chez son père, la victoire de Montmirail en 1814, victoire de Napoléon.
Eh oui.
Il racontait aussi à cette vieille tante, il lui racontait qu'il se souvenait très bien d'avoir vu Napoléon plusieurs fois. Une fois, il était avec sa mère aux Tuileries et sa mère lui dit « Oh, il y a l'empereur, enlève ta casquette et salue l'empereur ». Et il se souvenait avoir vu à la fenêtre l'empereur qui répondait à son salut.
Ah oui, Un grand moment.
De grands moments. Alors, il avait revu l'empereur dans d'autres occasions. Ça, c'est des souvenirs qu'il évoquait très spontanément. Et cette tante me les a racontés comme je vous les raconte. Oui. Donc, ce n'est pas tout à fait la tradition orale, mais presque.
Oui, mais c'est intéressant. Vous n'avez retrouvé aucun papier de cette époque ?
J'ai des papiers que je n'ai pas eu encore le temps vraiment d'éplucher, pas de traduire, mais de lire, parce que les écritures non seulement sont pas lues, mais quelquefois sont difficiles
à interpréter. Alors, si vous voulez bien, cette première partie, c'est déjà très fastueux pour la Halière. C'est le début donc du 19e. Et il va y avoir grand faste à la Halière.
Qui vont venir, en fait, un peu plus tard. C'est-à-dire que Mélanie de Rotrou, elle est veuve en 1835. Elle passe les dernières années de son existence à la Halière. Il y a quelques voisins, dont le marquis d'Aligre, qui vient la voir le soir et qui arrive en chaise de... porteur,
ah oui.
Précédé par des laquais avec des lanternes. Alors on aperçoit dans l'avenue des lumières d'abord,
oui.
On entend des grelots aussi, et il arrive vraiment, le soleil est bien couché, et il faut réveiller les domestiques pour lui servir, non pas à dîner, on disait à souper à l'époque,
oui.
Et en fait, bon, ça lui fait un certain plaisir, mais en même temps, c'est très difficile d'admettre qu'il arrive comme ça à l'improviste. Alors, les voisins de l'époque, il y en a très très peu. Ça n'est que plus tard, quand son fils se marie en 1845, oui. Qu'il épouse une veuve qui s'appelle Madame Dubois et qui est apparentée à la accoucheur de Marie-Louise, qui s'appelait le docteur Dubois, qui était un grand chirurgien, un grand accoucheur, et qui a évidemment sauvé la vie tout à la fois de Marie-Louise et du roi de Rome.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Geneviève Dutillet qui évoque sa maison, la Halière. La Halière qui se trouve en fait entre Thymerais et Perche. Alors une maison qui a connu beaucoup d'événements, et nous en étions justement à cette période qui va connaître beaucoup de fastes, n'est-ce pas Geneviève Dutillet ? L'arrivée du 19e, ça a été une période très fastueuse pour la Halière.
Et par bonheur, on peut considérer qu'il n'y a pas eu de mauvais goût qui a pu s'infiltrer. La maîtresse de maison de l'époque, Anna Tochet, décide de faire garnir les chambres de toiles de Jouy. C'était très à la mode à l'époque.
Oui.
Et les dites toiles de Jouy, nous les avons conservées à peu près en bon état jusqu'au début presque du 21e siècle.
Ah oui, c'était toujours les mêmes toiles de Jouy.
C'était toujours les mêmes toiles de Jouy, mais non seulement c'était toujours les mêmes toiles de Jouy, mais c'était les toiles de Jouy de l'époque qui s'étaient conservées.
Donc, très grande qualité.
Très grande qualité. Alors ça, c'est...
Donc ça, ce sont les chambres.
C'est les chambres. Au rez-de-chaussée, il y a eu peu de changements, encore qu'il y a eu une époque où on s'est entiché de Venise et qu'à ce moment-là, la salle à manger de la Halière a été tendue de drap rouge. Et il y avait le lustre, déjà le lustre de Venise qui est arrivé. Donc ça, c'était une étape supplémentaire vers l'Italie. Mais l'étape principale, ça a été le changement de l'escalier de la Halière. Les du Tillet allaient donc très souvent à Venise et celui que nous appelons très cérémonieusement le bon papa s'est entiché de l'Italie et il a décidé de mettre le long des murs les cordelières que l'on peut voir sur les gondoles. Les cordelières sont maintenues par des chevaux
Oh là
et des
là.
mâts. Et pour ne pas que ça jure avec l'escalier qui était à l'époque et qui était une rampe, une simple rampe de fer forgé, il a fait exécuter une rampe d'escalier en terminant la rampe d'escalier par le lion de Venise.
Ah oui.
Et c'est resté évidemment en l'état et c'est assez amusant. Au mi-étage, il y a des emplacements pour mettre des pots, de façon à pouvoir avoir des fleurs ou des plantes vertes.
Oui.
Il y a une énorme lanterne, toujours de Venise, et dans le vestibule ont été installés des bras de lumière, des torchères, qui sont des bras de Loire.
Ah oui, c'était tout à fait nouveau pour l'époque.
C'était très nouveau, je ne sais pas du tout ce qu'en ont pensé les voisins. Bon, les voisins, à ce moment-là, finalement, il n'y en avait toujours pas tellement. C'était tout de même très loin parce que les plus proches étaient à une vingtaine de
Parce que vous
kilomètres.
n'êtes pas loin de Chartres.
Nous sommes pas loin, mais nous sommes quand même à 30 kilomètres de Chartres.
Oui,
Et quand
oui.
il s'agit de venir
À
en voiture à
cheval.
cheval, il faut certainement un relais. On m'a raconté que les Pontois Pontcarré qui habitaient Villebon à l'époque, quand ils venaient à la Halière, peut-être pour être agréable, mais on leur envoyait des chevaux pour qu'ils
À
puissent faire
mi-chemin.
relais à Pont-Gouin.
Ah oui, c'est ça.
Alors, Madame du Tillet, Mademoiselle Tochet, a une sœur qui est Clémentine de Noue. Clémentine de Noue a épousé le général de Noue et ils ont un fils qui a exactement le même âge que le Gabriel du Tillet de l'époque, qui est donc Gabriel III. Ils sont nés vers 1850 et ils retrouvent également leur cousin qui est Raoul Tochet. Et Raoul Tochet, je vais un peu m'attarder sur Raoul Tochet car c'était certainement un adolescent très doué qui, à 15 ans, a écrit un vaudeville qui a été joué la première fois à la Halière quand il avait 15 ans. Mais 14 ans plus tard, ce vaudeville a été repris et joué au Théâtre des Variétés.
Ah oui, donc beaucoup de distractions.
Beaucoup de distractions, des distractions à domicile. Quand on avait terminé les pièces de théâtre, on tirait des feux de Bengale, on illuminait tout ce qu'on pouvait
On dansait,
illuminer, on
j'imagine.
dansait. J'ai lu aussi qu'on flirtait à la Halière. J'ai lu ça dans des souvenirs aussi, mais rien de très méchant, dit-on. C'est sûr que et les personnes qui venaient à la Halière étaient en fait à demeure, donc on peut trouver à l'époque quelqu'un comme Carmouche, Madame de Sceaux, qui était une peintre assez à l'honneur à l'époque et qui a dû faire les portraits de tous les enfants, donc vers les années 1800, juste avant.
Que vous avez toujours.
Alors malheureusement, il y a quelques portraits qui sont restés de ce qu'elle a fait, mais en particulier le portrait du grand-père de Jean-Gabriel, qui avait été fait un peu plus tard, vers les années 1880, est parti dans un cambriolage.
Ah.
Alors qu'en fait, ce n'était pas une
Non.
valeur marchande extraordinaire, mais
Pour
évidemment
vous,
une
c'était
valeur
important.
de souvenir. Sont venus également à ce moment-là et reçus pour des séjours le général Mélinet, qui a été le fondateur de la Légion en Algérie.
Ah oui.
Alors, il y avait également le maréchal Corbert. Le maréchal Corbert avait très bien connu Cambronne. Et dans ma belle famille, on disait que Corbert disait qu'il n'avait jamais dit le mot qu'on lui prête.
Ah. Comme quoi on refait l'histoire. Alors, je sais aussi qu'il y a une chapelle.
Alors voilà, après cette époque bénie, Gabriel du Tillet, donc le cousin de Jean de Noue et de Raoul Tocher, se marie en 1876 ou en 1875. Il se marie à Marseille et malheureusement, sa femme meurt de tuberculose 5 ans plus tard. Et quand elle se sent très mal, elle demande expressément à son beau-père d'être enterrée à La Hallière. Et à ce moment-là, en 1883, la chapelle de La Hallière est construite pour accueillir Madame du Tillet, donc qui vient de mourir de la tuberculose. Et à cette occasion aussi, on rapatrie les corps qui jusque-là étaient dans le parc, derrière une colonne qui est encore dans le fond du jardin à La Hallière. Et au dos de cette colonne, on peut lire « Nous nous retrouverons un jour ».
Ah oui.
Donc elle est enterrée à La Hallière et l'année d'après la construction de La Hallière, Madame du Tillet, Anna Tocher, meurt. Et elle meurt à Paris. Son corps est ramené à Digny, mis jusqu'au lendemain dans l'église de Digny. Et le lendemain, quand on arrive à l'église de Digny, le corps a été brûlé, calciné. Il y a eu probablement un cambriolage. Peut-être avec idée de forcer le cercueil, de récupérer des bijoux, on n'a jamais su, mais le cercueil est calciné.
Ça,
chose vrai. Qui, évidemment, augmente encore la peine de toute la famille.
Ah, oui.
Néanmoins, elle est aussi enterrée à la chapelle. Alors, dans cette chapelle, il n'y a pas eu seulement des événements douloureux.
Des mariages, j'imagine.
Non, pas des mariages, parce que la chapelle est trop petite. Il y a eu des baptêmes, plusieurs baptêmes, plusieurs premières communions aussi.
Ah, des communions.
Et nous avons récemment, mon mari et moi, renouvelé notre mariage avec monsieur le curé, qui nous a bénis à nouveau pour un certain temps. Au bout de nos 50 ans de mariage,
oui.
C'était à la chapelle de La Hallière. Donc ça fait partie des événements.
Oui, c'est très
heureux.
Émouvant. Oui.
Et actuellement, nous avons en vue de faire restaurer les vitraux de la chapelle de La Hallière. Donc, on va passer rapidement, je pense, au 21e siècle.
Oui, enfin, vous n'avez pas évoqué l'orangerie. C'est quand même...
Alors, l'orangerie, oui, c'est exact. L'orangerie a été construite à l'époque où n'importe quel château voulait avoir des orangers.
Oui,
c'était la mode. Et
oui.
L'orangerie du château de La Hallière a été construite sur le modèle du château de Villebon, en beaucoup plus petit. Elle a servi d'orangerie pendant très peu de temps, puis elle a été transformée en salle de théâtre pendant des années.
Ah oui.
Et les statues qui actuellement sont dans la salle à manger avaient été transportées dans l'orangerie, mises sur des piles, et c'était une salle de théâtre.
Et maintenant
Et maintenant, c'est plus, pour l'instant, c'est ce qu'on appellerait une remise avec des instruments agricoles. Bon, quelques pots qui sont en attente, les géraniums qui vont passer l'hiver, mais ça n'a plus rien à voir avec l'orangerie.
On ne peut plus faire de théâtre
Non, on ne peut plus faire de théâtre. Alors, les décors de théâtre, ils existent toujours.
Ah oui ?
Ils ont été rangés dans des greniers récemment, après avoir été photographiés, au moment où des grands travaux ont été entrepris. À La Hallière.
Alors, quels sont ces grands travaux ?
Alors, les grands travaux, ça a été d'abord des travaux de toiture. Toutes les toitures de La Hallière ont été refaites, que ce soit les toits en ardoise sur le château ou les toits en tuiles sur les communs et sur les pavillons. Ensuite, il y a eu des travaux strictement de confort avec le chauffage central et des salles de bain. Et en troisième lieu, des travaux de décoration, tout à fait dans l'esprit de ce qu'était La Hallière, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, les mêmes toiles de Jouy ont été remises.
Et ça, c'est en quelle année ?
Alors, les travaux ont été entrepris entre 1999 et 2008 ou 2009.
Ça, c'est vous, qui avez fait ces travaux.
C'est nous et c'est notre fils, puisque notre fils s'est installé à plein temps à La Hallière à partir de 1999. consacrant son temps d'abord à une entreprise de finance qu'il a
Oui.
eue à partir de la Halière. Il a fermé cette entreprise de finance en 2008, avant les
Oui.
difficultés de la finance, et il s'est consacré à l'immobilier, d'une part, et à la gestion d'une ferme qu'il a reprise après avoir lui-même été obligé d'aller au lycée agricole pour
Oui,
passer le
l'examen.
diplôme.
Oui, exactement.
Donc à présent, il partage son temps entre l'immobilier et l'agriculture.
Donc il est dans l'aile
Il est dans l'aile gauche
gauche.
de la Halière et il a son bureau dans les communs.
Donc c'est bien parce que vous pouvez vivre dans le même endroit sans vous gêner.
Je pense que c'est bien entamé la vie du 20e, 21e siècle. C'est bien qu'une propriété de cette taille soit habitée toute l'année. Il expédie, j'allais dire, les choses courantes. Malheureusement, il ne s'intéresse pas tellement au jardin lui-même. Ce n'est pas son truc. Donc nous avons décidé depuis un an de reprendre quelqu'un à plein temps pour
Mais il est très
essayer
beau le
de...
jardin. J'ai un souvenir de prune. très beau
Donc
jardin.
le potager est exploité au dixième de ce qu'il était à l'origine
Oui.
parce qu'il était fait pour nourrir non seulement les habitants du château, mais aussi toutes les personnes qui travaillaient pour la halière. Il y a toute une période où ça a été très important, c'est pendant la guerre, au moment où vraiment on a vécu de la liège. Malheureusement, il y a quelque chose que j'ai totalement oublié, qui était très très important pour moi, c'est de parler du grand-père de mon mari, le colonel du Tillet.
Oui, alors, trois mots.
Alors, trois mots. Le colonel du Tillet, il avait fait Saint-Cyr. C'était un homme foncièrement généreux qui avait pris sous son aile en
Ça nous
particulier.
somme pour nos auditeurs entre 1930 et 1966.
Voilà. Et donc, quand il était à Saint-Cyr, je veux absolument le dire, il avait pris la défense de Sterne, qui était juif, à une époque où,
Ah oui.
évidemment, à Saint-Cyr, la situation d'un juif n'était pas très confortable. Sterne lui en a tenu rigueur toute sa vie et il l'a laissé un grand souvenir à Digny parce que pendant la guerre, il a rendu de très grands services. Il aimait la halière, mais en même temps, il a trouvé que la fin de vie à la halière, c'était un peu sinistre.
Alors, je crois que maintenant, la Halière est sous un bon signe, puisque maintenant votre fils va reprendre. Donc, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes, je dirais.
Sait-on jamais, mais bon.
Un grand merci, Geneviève Dutillet. Je crois que nous aurons à cœur de voir cette maison et d'en écouter les souvenirs. À bientôt pour d'autres émissions. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.